monde.
Suite de la marche du monde à l'Historial de Péronne, 100 ans après la Grande Guerre, RFI s'associe à la réflexion menée par le Centre de Recherche Internationale de la Grande Guerre autour des premières fois dans la Grande Guerre. Comment les expériences de guerre sont-elles vécues par les contemporains du premier conflit mondial et plus particulièrement par les civils, les oubliés de la Grande Guerre, nous dit l'historienne Annette Becker. C'est en effet une des questions majeures posées ici au regard des violences extrêmes subies par les populations. Annette Becker, Alexandre Soumpf et Laurence von Verpessel sont dans la marche du monde et nous font partager le fruit de leurs recherches. Je les en remercie.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Le temps de la guerre pour les populations civiles devient très vite le temps de l'arrachement à la terre natale, le temps de l'exode, le temps de l'exil. Est-ce que c'est le temps des réfugiés, Annette Becker?
Oui, il y a déjà eu des réfugiés dans le passé, bien sûr. Il y a une longue histoire du refuge à travers l'histoire du monde. Mais il est sûr que dès août 1914, et avec d'autres moments de la guerre, et encore plus à la fin de la guerre, vraiment, cette guerre est la guerre des réfugiés. Cette guerre est la guerre des réfugiés parce que, comme on le disait tout à l'heure, les invasions de tous les côtés, l'avancée des fronts vont traverser quelquefois d'immenses territoires peuplés par des civils qui sont évidemment affolés et qui sont maltraités. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui combien de femmes ont été violées lors de ces invasions. On pense que c'est les femmes serbes qui, en plus grand nombre, ont souffert des exactions de l'armée austro-hongroise. Et donc, des dizaines de milliers et quelquefois des centaines de milliers d'hommes non mobilisés, de femmes, d'enfants, vont prendre la route à pied, sur des charrettes, et ils vont emporter ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire presque rien. C'est ce mélange d'une extrême misère de l'arrivée des réfugiés où ils peuvent se trouver, et en même temps, ils n'étaient pas des miséreux quand ils partaient de chez eux. Ils avaient une maison, ils avaient un métier. Ils avaient une vie, et cette vie est en train de disparaître. Le sort des réfugiés, c'est le sort de la disparition de la vie d'avant. Je dirais encore bien plus que celle des soldats, parce que les soldats se transforment, ils deviennent des soldats. Ils étaient cordonniers, instituteurs, ils sont désormais soldats, mais c'était la norme des choses. Ils avaient fait un service militaire, ils savaient qu'ils pourraient être appelés à la guerre. Pour ces civils, tout est nouveau, tout est traumatisant.
Avant de donner la parole à Alexandre Soumpf pour ses travaux très inédits sur ce qui se passe justement dans cette Russie bouleversée, naissante, avec cette diversité de populations, quelques images peut-être de ces réfugiés, notamment en Belgique, Laurence von Verpessel, puisque c'est un pays occupé, comme le nord de la France d'ailleurs.
Oui, en Belgique, qui compte 7,5 millions d'habitants, il y a 1,5 million de Belges qui fuient les exactions dans la panique. Comme disait Annette, ce sont parfois des grands bourgeois, ce sont parfois de simples ouvriers, des paysans. Beaucoup reviendront pour justement récupérer, voir ce qui s'est passé avec la maison. Et en plus, les Allemands vont faire des lois pour obliger le maximum de personnes à revenir. Il n'empêche, plus de 600 000 Belges vivront toute la guerre en exil. Alors un exil qui n'est pas facile, parce qu'ils vont revenir vraiment sur la pointe des pieds, ces gens-là. Ce sont des embusqués, on va les assimiler à des embusqués. Ils n'ont pas vécu le martyre national. Il n'empêche, ça n'a pas été facile du tout, parce que si l'accueil de la petite Belgique martyre internationalement reconnu est très positif les premières semaines, très rapidement, le stéréotype va s'inverser et les victimes vont devenir ceux qui profitent, ceux qui ne travaillent pas, qui ne s'assimilent pas. Et donc, s'il y a des oubliés, ce ne sont pas les civils occupés, ce sont les exilés chez nous.
Et ces exilés, ces réfugiés, où sont-ils accueillis?
Alors, les réfugiés belges vont massivement aller en Hollande, en France et en Grande-Bretagne, un petit peu en Suisse et un petit peu partout dans le monde.
Alors comment ça se passe, cette question de l'exil, des réfugiés, pour les fronts orientaux et notamment en Russie, Alexandre Soumpf? Vous donnez un chiffre absolument gigantesque, monstrueux, vous évoquez 6 millions de réfugiés.
Oui, alors ce chiffre en fait est donné par l'historien britannique Peter Gatwell. Un chiffre qui peut paraître impressionnant, évidemment, il faut le remettre dans le contexte d'un empire qui compte 170 millions d'habitants.
Donc vous dites 5% de la population de l'empire.
Voilà. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a un contexte très différent sur ce front. D'une part, dès 1914, on va déterminer quels sont les ennemis de l'intérieur. Et ces ennemis, ce sont des personnes qui ont des noms à consonance germanique, qu'ils soient des Allemands arrivés récemment ou arrivés successivement suite à l'appel notamment d'un certain nombre d'impératrices d'origine allemande, de Catherine la Grande à Catherine II, et qui sont venus régulièrement coloniser la Russie de manière économique, mais parce qu'on les avait appelés. Et tout à coup, l'argument se reconfigure totalement, et on va parler de domination économique allemande à tous les niveaux de la société, depuis les plus grands industriels jusqu'aux plus petits cordonniers, en disant « notre économie est envahie par les Allemands, il faut extirper l'Allemand de notre économie ».
Donc les Allemands en Russie, d'un seul coup, deviennent des ennemis de l'intérieur.
Ce sont des ennemis de l'intérieur, et à ce titre-là, non seulement ils sont enfermés, non seulement ils sont déportés, et ça c'est un premier flux qui est assez important, plusieurs centaines de milliers de personnes, mais aussi ils sont expropriés. Expropriés de leurs terres, notamment en Ukraine, et expropriés de leurs propriétés, de leurs industries, de leurs ateliers d'artisanat. Et il y a aussi des juifs qui ont des noms à consonance allemande, mais ceux-là sont des fois pris comme allemands par la population locale, sont victimes de mini-pogroms, de certaines violences, et en particulier de violences matérielles. Ça, c'est le contexte, on va dire, de 1914-1915.
Est-ce que cela soulève un quelconque émoi dans la population, ou est-ce qu'on y va, franco, sur l'antisémitisme, sur le rejet de l'autre? Vous citez des chansonniers, par exemple. L'opinion publique?
Alors, l'opinion publique est ardemment mobilisée par la presse. Elle est sous le coup de l'émotion de l'entrée en guerre tout à fait sensible et tout à fait prête à accueillir ce discours. Elle l'est d'autant plus qu'on est dans un contexte de crise sociale et économique assez profonde en Russie à l'époque. Et donc c'est aussi un moyen, en quelque sorte, de se venger du voisin, de lui saisir ce qu'il a, lui, pu acquérir grâce à son travail, à peu de frais, en quelque sorte. Et ce qui est très intéressant dans les saisies de terres, c'est la manière dont ces terres vont être accordées à ce qu'on appelle la banque paysanne, mais ensuite vont pouvoir être achetées, et achetées souvent par les plus riches propriétaires terriens russes, localement.
Et c'est particulièrement en 1915, donc Alexandre Soumph, que cette répression s'exerce massivement, parce qu'en 1915, il se passe quelque chose, il y a cette retraite de l'armée russe.
C'est ce qu'on appelle en Russie la grande retraite, c'est-à-dire c'est un recul du front de au minimum 150 km et au maximum 250 km. C'est une défaite en rase campagne, c'est la politique aussi de la terre brûlée. Donc par rapport à ce qui se passe peut-être en Belgique, l'espoir de retour, il est vraiment très mince, parce que ces populations qui ont été poussées à l'exode, elles ont parfois dû elles-mêmes brûler leurs maisons, brûler leurs champs, brûler leurs réserves.
Elles-mêmes, hein.
Elles-mêmes, certaines unités les ont forcées, certains soldats l'ont fait. Il y a eu des cas aussi de refus, évidemment, mais elles savent que quand elles reviendront sur une tabula rasa.
Annette Becker.
Pour que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe à cet endroit-là, il faut savoir que l'antisémitisme dans l'Empire russe avait fait que l'immense majorité des Juifs habitaient dans cette région. C'était une zone de résidence. Ils n'avaient pas le droit d'habiter ailleurs. Et c'est ce qui explique pourquoi le recul et la déportation à l'interne, qu'on peut appeler aussi expulsion, vient du fait qu'ils habitent tous là. Et donc, ce sont les Juifs de l'Empire russe qui vont être le plus victimes, parce que c'est leur zone de résidence.
Alors, je nuancerai quand même, il n'y a pas que des Juifs qui sont déportés, qui sont forcés à l'exode. Il y a beaucoup de Baltes non-Juifs, il y a beaucoup de Polonais. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, justement, ces Juifs vont être autorisés par la force des choses à quitter cette zone de résidence, et que donc il va y avoir une rencontre pour la première fois entre les Russes de la province profonde, de régions comme Tambov ou de Sibérie. Ils ont été jusqu'en Sibérie, donc c'est 3000 km d'exode. Et ils vont rencontrer pour la première fois les Juifs. Et cette rencontre, elle va aller dans les deux sens. Ça va être à la fois la rencontre de l'autre qu'on ne va pas vouloir accepter, mais aussi des fois un autre dont on va tout à coup comprendre quelles sont aussi ses qualités. Notamment, les Baltes ont été très bien reçus, et parmi eux des Juifs Baltes, par le fait qu'ils avaient des techniques agricoles que ne connaissaient pas les paysans de l'intérieur de la Sibérie, et qu'il y a eu une sorte de transfert de compétences assez intéressante. Donc il y a beaucoup de violence symbolique et réelle et matérielle, mais il y a aussi une rencontre.
Alors, en ce qui concerne la diversité des populations, mais aussi des territoires qui sont impactés par cette grande guerre, hein, donc matrice de cette violence du XXe siècle, parlons aussi des territoires qui ne sont pas en Europe, mais qui sont sur le continent africain. Annette Becker, il y a aussi toute la population civile, qui à l'époque évidemment est une population sous domination coloniale, française ou même allemande, mais alors là, qui paye un tribut également très très lourd à la guerre.
Oui, bien sûr, je crois qu'il y a une série de gens dont on n'a pas parlé, ce sont les étrangers qui se trouvent à l'intérieur des différents pays. Parce que ces étrangers, mettons un Allemand qui habitait en France avant la guerre, se retrouvent des ennemis et donc, dans tous les territoires, vont être internés. Mais ils vont être internés aussi dans les colonies. Et en Afrique en particulier, ça prend un tour particulièrement violent contre les Africains, parce que dans les colonies allemandes, qui sont très rapidement investies, soit par les Britanniques, soit par les Français, qui sont leurs ennemis, eh bien, les Africains, qui sont coloniaux allemands, vont être mis au travail forcé pour les Britanniques ou pour les Français. Quand c'est les Allemands qui gagnent, eh bien, ils font la même chose contre les autres. Et donc, on a deux niveaux, je dirais, d'exploitation, le niveau colonial habituel, et puis le niveau du refus de l'ennemi qu'ils vont maintenant représenter sur le territoire. Et donc, pour ces populations africaines, on en parle malheureusement très peu, ce sont eux aussi des oubliés de la guerre. Cette guerre va prendre un tour national qui ressemble à celui de l'Europe, mais qui se surajoute à la domination coloniale préexistante.
Laurence von Hyperzell, on a le sentiment d'une liste sans fin.
Une liste sans fin, une variété sans fin de situations, de types de population, de rejeux, de domination ou d'inversion. En effet, c'est à l'infini. Et ce qui rend évidemment l'analyse passionnante, mais aussi extrêmement compliquée, parce que même au sein d'une même population, vivre l'exil quand on est un paysan, quand on est un intellectuel, quand on est un ouvrier, c'est chaque fois différent. Et où va-t-on ? Est-on ennemi de l'intérieur ? Va-t-on en pays ami, en pays ennemi ? Évidemment, c'est chaque fois des histoires complètement différentes. Alors, dans ces histoires différentes, évidemment, il y aura toute la problématique du retour. Mais déjà, pendant l'exil, peut-on retourner ou ne pourra-t-on pas retourner ?
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Les violences extrêmes contre les civils, autant de premières fois dans la Grande Guerre, c'est un des thèmes méconnus et passionnants abordés ici au Centre international de recherche de Péronne, avec une centaine d'historiens venus du monde entier, 100 ans après le premier conflit mondial. Et vous avez, Annette Becker, présenté une conférence qui nous permet de prendre conscience à la fois de l'ampleur des violences extrêmes contre les civils. Dans certaines régions, il y a plus de morts, dites-vous, chez les civils que chez les militaires. Et vous avez aussi rappelé combien le génocide des Arméniens est l'expression paroxysmique de ces violences au sein même de la guerre. Alors que se passe-t-il au sein même de l'Empire ottoman avec les Arméniens ?
Il faut comprendre que ce qui s'est passé dans l'Empire ottoman est le maximum de violence contre les civils. Mais on peut dire que les pauvres Arméniens ont additionné tout ce dont on vient de parler. Ils avaient contre eux d'être des chrétiens. Ils avaient contre eux d'être un peuple dispersé. Il y a donc massivement l'essentiel des Arméniens vivent dans l'Empire ottoman, mais il y en a qui vivent dans le Caucase et qui sont donc dans l'Empire russe.
Alexandre Soumpf approuve. Hein.
Bien sûr, c'est lui le spécialiste. Et donc, de facto, ceux-là sont des ennemis de l'extérieur. Et donc, que vont penser les Ottomans qui ont une longue histoire de massacres, de refus de populations halogènes ? Que vont penser les Ottomans qui sortent des guerres balkaniques, qui les ont fait reculer sur le continent européen ? Eh bien, ils vont penser que leur population arménienne, chrétienne, sont des ennemis de l'intérieur, d'autant plus qu'ils risquent de s'allier aux Russes Et quand, tout au début de la guerre, les Russes ont quelques succès, très modérés, il faut bien le dire, dans le Caucase, ils sont persuadés que les Arméniens, qui pourtant ont montré tous les signes de fidélité, les hommes arméniens, comme tous les autres Turcs, ont pris les armes. Ils sont des soldats, et ils sont des soldats parfaitement fidèles. Personne n'a pu trouver jamais le signe d'une désertion arménienne. Cela n'existe pas. Mais les autorités turques vont s'en persuader. Et ils vont d'autant plus s'en persuader que c'est désormais les jeunes Turcs qui sont au pouvoir et que les jeunes Turcs ont décidé qu'ils allaient unifier leur nation turque autour de la turquitude et de l'islam. Et que donc il n'y avait plus de place dans l'Empire pour la diversité ethnique et religieuse.
Alors vous montrez des photographies d'époque, ce sont des documents saisissants, extrêmement émouvants puisqu'ils sont noirs et blancs, ils sont parfois même mal définis, mais derrière le flou de ces images, on voit des marches, on voit des corps, on voit des cadavres, c'est une sorte de preuve par l'image de ce qui s'est passé. Et c'est Armin Wegener donc, qui a pris ces photos. Quel est son regard et pourquoi fait-il ces photographies?
Armin Wegener est un personnage passionnant et relativement bien connu aujourd'hui. En fait, c'était un Allemand qui est mobilisé dans l'armée allemande et qui est infirmier. Et au moment où l'Empire ottoman fait le choix de rentrer dans l'alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, il est envoyé sur le front comme infirmier. Wegener est un homme très éclairé, qui regarde, qui sait beaucoup de choses et qui est photographe. Et il est témoin des exactions contre les Arméniens, en particulier à la suite des déportations. Parce que ce qui s'est passé à partir d'avril 1915, c'est que la décision a été prise, non pas d'assassiner les Arméniens, mais de les déporter le plus à l'est possible dans la Turquie, en direction de la Syrie, en direction d'Alep. Et qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, on va ne pas leur donner à manger, ne pas leur donner à boire, et les populations vont mourir petit à petit.
Donc autrement dit, on organise ces déportations. D'ailleurs, Alexandre Soumpf, vous parlez de ces déportations, de ces marches également au sein même du territoire russe. Et vous dites, on était presque comme dans le cas des Arméniens, on a frôlé la catastrophe.
Tout à fait. Ce qui est assez fascinant, c'est que exactement au même moment, en Russie, se pose la même problématique avec ces populations juives qu'on expulse de leur zone de résidence. Des populations que personne ne veut accueillir, que les gouverneurs des provinces refusent de prendre en charge, que les populations des villes refusent d'accueillir, que les populations des campagnes encore plus refusent d'accueillir, et qu'il s'en est fallu de très très peu pour qu'on tourne à la violence totale, parce que les principaux ennemis, en quelque sorte, de ces ennemis de l'intérieur, c'était les militaires. Et les militaires étaient très nationalistes, très antisémites, les militaires de carrière. Et ils se sont dit que les Juifs étaient les responsables de leur défaite, qui était monstrueuse à ce moment-là, et que c'était ceux qui devaient payer pour ces défaites. Et il se trouve qu'ils ont commencé à les déporter en masse, les déporter sans s'en donner les moyens, donc à pied, sans nourriture, sans abri. Heureusement, on était l'été, et l'été beaucoup plus au nord que l'Arménie aussi, donc avec des questions de soif et d'alimentation moins problématiques, en quelque sorte. Et puis finalement, c'est la population civile qui va, de manière assez inattendue, sauver ces juifs de ce qui aurait pu être un génocide et le limiter en quelque sorte en des formes de pogroms localisés, parce que elle va prendre pitié de ces réfugiés, prendre pitié parce qu'elle les voit affluer, parce qu'ils sont aussi fondus dans une autre masse et que finalement c'est la population qui va leur donner une miche de pain, une bouteille d'eau, qui va leur donner un toit, une étable, et qu'ils vont pouvoir continuer leur périple jusqu'à trouver finalement un abri quelque part où on accepte qu'ils restent.
Alors en revanche, Annette Becker, ça ne se passe pas du tout comme ça dans l'Empire ottoman.
C'est malheureusement pas ce qui va se passer dans l'Empire ottoman, parce que là, la population civile, au contraire, va participer au martyr des Arméniens, et en particulier les territoires kurdes. Et bien sûr, aujourd'hui, vu la situation des Kurdes, des différents Kurdistans éclatés, on a du mal à comprendre, mais un siècle auparavant, que voulaient ces populations ? Eh bien, voulaient récupérer un peu de ce qu'ils croyaient être la richesse immense des Arméniens. De deux façons, d'une part en les dépouillant, et les quelques récits que l'on a d'Arméniens, c'est très intéressant de voir comment ils sont partis avec peu de choses matériellement, mais ceux qui avaient de l'argent essayaient de prendre cet argent, et on voit combien on leur vend un tout petit peu de nourriture à des prix absolument épouvantables, et donc ils finissent par mourir de faim, et on voit les familles se désagréger au fur et à mesure que l'argent manque. Et puis il y a des moments de massacre réels pendant la déportation. Mais il y a eu une autre façon de sauver les Arméniens. Une partie des femmes et des enfants arméniens, on ne sait pas exactement le pourcentage. On les appelle aujourd'hui d'un mot assez joli et assez terrible en même temps, on les appelle le reste de l'épée. Ont été sauvés de la mort certaine par le rapt. Ils ont été emmenés dans des familles musulmanes. Les femmes ont été épousées, réépousées. Les enfants ont grandi. Certains, et on ne saura jamais combien, n'ont jamais su qu'ils étaient d'origine arménienne, n'ont jamais su qu'à un moment ils avaient une famille ailleurs. D'autres ont réussi à s'échapper et ont raconté. D'autres ont vécu toute une vie comme s'ils étaient nés dans une famille turque ou une famille kurde. Et puis enfin, il y a ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Et au bout, les attendait quelque chose de banal dans le monde en guerre, le camp de concentration. Sauf que ce camp de concentration était des camps de tentes où il n'y avait strictement rien. Les tentes étaient souvent les couvertures qu'ils avaient traînées avec eux. Et le résultat, c'est que les taux de mortalité ont été absolument infernaux. Et c'est ça que Wegener voit. Et il voit aussi les maladies se développer. Et Wegener, qui est infirmier, comprend très bien que ces maladies font partie de l'extermination. On laisse tout cela aller au pire. Et le résultat, c'est qu'on a bien une population qui a été ciblée, une population dont on a réussi une extermination massive. Et c'est donc pour cela que quand on réfléchit de façon rétrospective au XXe siècle, on ne peut employer qu'un seul mot, le mot de génocide. Parce que c'est cela qui s'est passé. Ce n'est pas un massacre à travers la guerre. Ce n'est pas la décision de déporter vers un camp et puis de laisser les gens, une fois la guerre terminée, rentrer chez eux. Ce qui se passait pour les réfugiés et les déportés ailleurs. Il s'agissait bien de se débarrasser des Arméniens. Il s'agissait bien de les faire disparaître de la terre. Donc c'était bien un génocide. Le mot n'existait pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé.
D'un mot, parce que malheureusement nous arrivons au terme de cette émission, de votre point de vue, qu'est-ce qui va malgré tout sortir de ces premières fois, de ces premières expériences de violence extrême en ce qui concerne les civils ? Alexandre Soumpf.
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que face à ces violences, la société juive va s'organiser, va prendre en charge ses réfugiés et va être l'un des moteurs majeurs de l'acquisition et de l'extension à toutes les catégories sociales et à toutes les catégories ethniques de l'Empire, de la citoyenneté russe qui, pour la première fois, à l'issue de la révolution de février 1917, est accordée aux 170 millions de Russes.
Laurence Van Ypersil.
Un héritage très ambigu pour les populations civiles de la Belgique et du nord de la France. Le souvenir de ce qui s'est passé en 14 va être rejoué en 40-45, mais de manière parfois inversée. Les massacres de civils en 14 avaient poussé les Belges et les Français du nord à refuser l'occupation. Ici, ça va les jeter sur les routes de l'exode. On voit que dans les politiques collaborationniste ou accommodante, on va essayer d'éviter le drame de l'occupation de 14-18 qui a été si terrible. Mais en même temps, ça va aussi alimenter une résistance, non seulement de renseignement ou d'évasion, mais aussi cette fois-ci armée contre l'occupant. Donc un héritage vraiment particulièrement ambigu.
Annette Becker.
Moi je crois que le sort des civils dans la Grande Guerre a été terriblement instrumentalisé pendant la guerre elle-même. On a parlé de la Belgique martyr, de la Serbie martyr. On savait très bien ce qui se passait en Arménie et on avait très bien compris dès 1915 que ce qui se passait en Arménie était différent de ce qui se passait dans les autres territoires. La preuve, cette caricature qui représente l'enlèvement des femmes de Lille en 1916 et où le caricaturiste parisien dit « ils se plaignent, qu'est-ce qu'ils diraient s'ils étaient en Arménie ?» Donc ils ont très bien compris qu'il se passe quelque chose d'autre. Mais tout ce qu'on a compris pendant la guerre, c'est comme si on avait voulu l'oublier. Les civils ne devaient pas faire la guerre, c'était les militaires. Donc on n'allait plus en parler. Eh bien, ça a rejoué en 1940 et on sait à quelle échelle.
Merci Annette Becker, Laurence von Hyperzel, Alexandre Soumpf et John Horn que l'on a entendu au début de cette émission. Vos différents ouvrages à tous sont à retrouver sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr. 1915, violence contre les civils et génocide des Arméniens. C'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani en partenariat avec le Centre international de recherche de Péronne. Et évidemment un grand merci à sa directrice Caroline Fontaine. Écrivez-nous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.